This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, 1925, nous sommes à quelques années de la fin de la guerre de 14-18 et la situation de l'Europe n'est pas au mieux. La crise se creuse et plusieurs États de l'Europe traditionnelle ont quelques difficultés avec leur population. L'effet de la guerre a entraîné des difficultés économiques. Et le chômage est en train de progresser à vitesse grand V à travers toute l'Europe, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et ailleurs. En France, les gouvernements se succèdent. Le gouvernement Herriot fait adopter en janvier 1925 une série de mesures sociales. Il publie un décret sur les postes qui seront désormais dotés d'un budget annexe et d'un programme de grands travaux, un petit peu à l'image du New Deal américain. La Chambre des députés vote l'extension de la loi de 8 heures et étend l'admission gratuite des élèves dans les lycées et collèges comportant des places vacantes. Il faut rappeler que l'enseignement était en partie payant à ce moment-là. Une loi fiscale, quant à elle, établit la taxe d'apprentissage et adopte donc le principe même de l'éducation par l'apprentissage tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gouvernements n'ont des durées que relatives. Et donc, après le gouvernement Herriot en janvier, le 17 avril, eh bien, le gouvernement Herriot démissionne et c'est Paul Painlevé qui devient président du Conseil. C'est aussi le moment de la montée du Parti communiste français. Jacques Doriot, notamment, est un dirigeant influent et qui se fait entendre. Et c'est le moment, en 1925 donc, où va se manifester l'attitude coloniale de la France, l'attitude peut-être la plus coloniale de ce siècle, avec l'intervention de la France au Maroc. Alors que se passe-t-il? Eh bien au Maroc, et depuis 1921, il y a un certain nombre de difficultés. La France s'est installée au Maroc grâce au protectorat, c'est-à-dire qu'elle a signé un accord avec le sultan du Maroc, et que, au terme de cet accord, eh bien, la France protège, d'où le nom protectorat, protège la souveraineté du sultan du Maroc. Alors, comme la France ne peut pas le faire toute seule, tout ça, eh bien, elle va négocier avec l'Espagne une sorte de sous-location du protectorat, c'est le terme qu'on peut utiliser, et elle va confier à l'Espagne. Donc on est en 1921, elle va confier à l'Espagne le soin de gérer la partie nord du Maroc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Rif, la partie montagneuse et un petit peu accidentée qu'il y a entre le Maroc plus riche et la Méditerranée, donc la jonction avec la péninsule ibérique. Et donc cette zone, cette espèce de ruban qu'il y a sur le nord du Maroc va être donc gérée par les Espagnols et elle va faire l'objet d'un accord entre l'Espagne et la France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet accord va avoir lieu à un moment où le général qui dirige les forces espagnoles au Maroc, dans le nord du Maroc, eh bien, n'a d'autre nom que le général Franco. Certes, la France désavouera quelques années plus tard tout ce qui a pu se passer à ce moment-là, mais il est clair que l'attitude coloniale et dominatrice de la France va se faire en accord avec l'Espagne pour tout ce qui concerne le Maroc. Alors en 1921, un homme se lève, un homme cultivé, quelqu'un qui qui a fait des études, il s'appelle Abdelkrim, et il décide de réunir toutes les tribus du RIF contre l'Espagne et, par contre-coup, contre la France. Et il y réussit. Il y réussit si bien qu'il obtient même le soutien du Parti communiste français, qui réclame avec lui l'évacuation du Maroc et la reconnaissance de la République du RIF, qui sera proclamée en juillet 1923. Alors, pourquoi je remonte à ces années en arrière, c'est que tout ce qui va se passer va expliquer la suite, c'est-à-dire qu'en 1925, eh bien, la France va envoyer un corps expéditionnaire. Enfin, il y a déjà une armée qui est présente, des renforts vont intervenir. Le maréchal Lyautey va être démis, d'une certaine façon, de ses fonctions, parce qu'il avait une attitude plutôt décolonisatrice. Et c'est donc, tiens comme par hasard, le 17 juillet, le maréchal Pétain, qui va arriver à Rabat en mission spéciale auprès du maréchal Lyautey, en vue de réorganiser les forces françaises au Maroc, qui se composent de 325 000 hommes, et de mener la contre-offensive dans la guerre du Rif, aux côtés des Espagnols, contre les troupes d'Abdelkrim. À signaler également que parmi les officiers supérieurs, qui font partie de l'état-major, eh bien, il y a un jeune officier qui s'appelle Charles de Gaulle. Comme quoi, ils étaient tous là. Voici comment Alain Decaux, célèbre historien radiophonique, décrivait la situation en 1900, dans ces années-là, entre 21 et 25, donc, et cette guerre du Rif.
Les premières nous conduisent au Maroc au début du siècle. La Légion, installée depuis des décennies en Algérie, Sidi Bel Abbès, y a pénétré pour protéger le territoire algérien des incursions des berbères marocains. Il a fallu attendre que l'Allemagne, en 1912, reconnaisse le protectorat français sur le Maroc pour que les opérations se poursuivent au grand jour. Un an plus tard, Lyautey, nommé résident général, décide que les Français ne sont pas là pour coloniser le Maroc, mais pour le faire accéder à la modernité et à l'indépendance. Le sultan règne, Lyautey gouverne. Au Maroc, Lyautey poursuit la pacification. Pendant la Grande Guerre, il a évité le pire, une rébellion qui aurait très bien pu intervenir pendant que les Français étaient occupés ailleurs. Mais, en 1924, on ne parle plus au Maroc que d'un certain Abdelkrim. Son père, un notable du Maroc espagnol, a levé l'étendard de la révolte et, l'année suivante, Abdelkrim prend lui-même la tête des rebelles dans les montagnes du Nord, dans le Rif. En 1921, il écrase littéralement l'armée espagnole et bientôt il domine tout le Rif. En avril 1925, Abdelkrim attaque les garnisons françaises. Lyautey sait parfaitement qu'il ne s'agit pas d'une révolte éphémère que l'on réduira facilement. Ce qui commence, c'est une guerre. Il demande des renforts à Paris. Paris refuse. Un an après, quand Paris accepte d'envoyer des renforts, il est trop tard. C'est tout le Rif qui, derrière Abdelkrim, déferle sur le Maroc français.
Et ce sera la guerre, une guerre terrible qui fera de nombreuses victimes, où l'on dit que les Français et les Espagnols utiliseront l'aviation, l'artillerie et peut-être même des outils de guerre, enfin des armes de guerre bactériologiques déjà. La chose n'a pas été encore tout à fait prouvée. En tout cas, c'est une guerre dont personne ne va parler pendant des années. Et peut-être en Espagne un petit peu, on commence à en parler un peu plus, mais En France, ce n'est pas une guerre qui est considérée comme faisant partie des sujets de prédilection des mouvements, de tout ce que font les historiens à l'heure actuelle. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que grâce et à cause de ce monsieur Abdelkrim Khattabi, eh bien, sera prononcée, donc en 1921, la première république islamique du Rif. Et donc, c'est cette idée d'un État autour d'une conception religieuse qui va faire son chemin et qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, évoque des choses tout à fait précises et actuelles. Alors l'UOT, le maréchal UOT, donc, sera déposé. Il démissionne le 22 août 1925 de son poste de résident général au Maroc. Et c'est le maréchal, le général, puisqu'à l'époque il n'est pas encore maréchal, le général Pétain, donc, qui prend en main les opérations militaires dans le Rif. Le 8 septembre, les troupes espagnoles, qui se composent de 100 000 hommes, en plus des 325 000 Français, sous le commandement de Primo de Rivera, qui débarque dans la paix d'Alhuemas, et qui marche vers le quartier général d'Abdelkrim, qui lui est composé de 75 000 partisans. Le combat est assez inégal, et donc peu à peu, l'ordre reviendra, enfin l'ordre des pays du Nord va revenir, et le 28 septembre, devant la situation, celui qui a remplacé le maréchal Lyoté lui-même va être désavoué, démissionné, et c'est donc le général Pétain qui va prendre tous les pouvoirs sur place. C'est donc une guerre dont on trouve peu de traces dans les travaux des historiens, en tout cas de traces connues aujourd'hui, mais qui va laisser beaucoup de traces dans le Maghreb, parce que ce sera la première tentative de réunir les tribus autour d'un thème qui consiste à éliminer, bien entendu, les incroyants venus du Nord. Alors cette année-là, 1925, eh bien, ce n'est pas que la guerre, c'est aussi une inflorescence musicale. On assiste à l'arrivée du Charleston, et qui fait danser les Européens et les Américains, et on assiste aussi à la dernière composition d'un compositeur génial, il s'agit de George Gershwin, qui compose son concerto en F. extrait du premier mouvement du concerto en fa de George Gershwin. George Gershwin qui devait décéder en 1937. Alors on dit souvent que ce concerto est la partie la plus élaborée de ses compositions, plus travaillée, plus symphonique que sa Rhapsody in Blue. En réalité, c'est une œuvre de maturité, c'est une œuvre qui résume un petit peu toutes les facettes du talent de George Gershwin. Je vous conseille en tout cas d'en écouter la totalité de l'enregistrement, c'est absolument remarquable. Ici, le piano était tenu par Marc-André Hamelin et l'orchestre de la Radio Philharmonique allemande était dirigé par Leonard Slatkin. Cette même année, 1925, on assiste le 14 janvier de cette année-là à un enregistrement tout à fait exceptionnel. Il s'agit d'un duo entre Louis Armstrong et Bessie Smith, St. Louis Blues. Bessie Smith, l'impératrice du blues, comme on l'a surnommée à l'époque. Alors, fin 1924, ses dernières réalisations montrent que la chanteuse a fait de très nets progrès. Elle est plus sûre d'elle-même, elle prend des libertés avec les textes, n'hésitant pas à se rapproprier le texte des chansons, et en se mettant elle-même en scène. C'est une façon, c'est la première chanteuse qui, véritablement, acquiert une autonomie et une stature de star. Elle possède désormais une telle maîtrise vocale, une présence scénique remarquable qui lui permettent de faire face à n'importe quelle audience et à n'importe quelle salle. Alors le 14 janvier 1925, Bessie entre en studio avec Fred Longshaw et Louis Armstrong afin d'enregistrer ce Saint Louis Blues que vous venez d'entendre. Cette séance sera suivie de deux autres, le 26 et le 27, au cours desquels seront gravés quelques autres chefs-d'œuvre. Le cornet, car Louis Armstrong joue du cornet dans ce morceau, répond à la voix de Bessie comme dans un jeu de questions-réponses. C'est pour ça que je parlais au début de cette émission de duo. Il y a vraiment une entente parfaite entre la sonorité bluesy de la chanteuse et celle plus tranchante du trompettiste qui donne aux chansons un relief inhabituel. Peut-être que l'enregistrement un peu élémentaire ne donne pas la totalité du contraste qu'il y a entre les deux, entre la voix et l'instrument, mais on sent qu'il y a là quelque chose d'authentique et que Satchmo souligne sans arrêt avec finesse la qualité de la voix de Bessie Smith. Ces séances seront les seules qui réunissent l'impératrice du blues et le roi du jazz de l'époque, King Louis, d'autant qu'entre ces deux sessions, la chanteuse a enregistré d'autres morceaux, et notamment avec le sextet de Fletcher Henderson. Alors ce morceau Saint Louis Blues a une petite histoire, puisque quelques années plus tard, en 1929, un producteur de cinéma va imaginer tourner un film intitulé Saint Louis Blues, un film parlant, tourné dans les studios Phototon à Astoria, à Long Island, et qui rappelle un petit peu la vie de W.C. Handy, qui est le compositeur de Saint Louis Blues. Et donc le film va, le producteur du film va convaincre Bessie Smith, évidemment, de participer au tournage de ce film ainsi qu'à Louis Armstrong. Ce film aura un énorme succès. Il fait partie des premiers films parlants après que le chanteur de jazz ait été le premier. Mais il est un autre musicien qui est tout aussi prégnant et qui est lui aussi une sorte de roi. Il est le roi du clavier jazz de l'époque. Il s'agit de Jelly Roll Morton. King Porter Stomp, une composition de Jelly Roll Morton. Et là encore, c'est un duo avec King Oliver, qui était le grand rival de Louis Armstrong et qui donc était tenté de rivaliser avec le King Louis, enregistré à Chicago, la ville du jazz à l'époque. Alors, Jelly Roll Morton vit à Chicago depuis 23. Il est revenu de San Francisco et il s'est installé à Chicago. Et donc, il joue avec tous les musiciens qu'il peut rencontrer. Et il enregistre donc en duo avec King Oliver en ce début d'année 1925. Il enregistrera donc ce fameux King Porter et puis également Tomcat, une autre composition qu'enregistreront les deux musiciens. Le duo est une forme qu'utiliseront beaucoup au début les musiciens de jazz. Et puis, peu à peu, les choses vont se complexifier. Et donc, on assistera à des compositions beaucoup plus élaborées sur la base de groupes de au moins 5 musiciens. Et d'ailleurs, Jelly Roll Morton lui-même créera un groupe appelé Red Hot Peppers qui enregistreront énormément de succès de l'époque et qui manifesteront là la formule idéale, 5 musiciens, pour les quelques 10 années à venir de l'histoire du jazz. Voilà, nous étions en 1925. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Ware en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.